Bienvenue au 3e congrès national des procureurs généraux sur les narcotiques et les drogues dangereuses.
Pour combattre efficacement ce fléau, il faut que chacun d'entre nous essaie de concevoir et d'imaginer ce qui se déroule dans l'esprit envoûté des toxicomanes. Par exemple, un toxicomane sous l'empire des drogues appelle le mégot un roach, un cafard, disons. Car il y voit un genre de cafard. Or, ce genre de comparaison morbide.
Putain, mais de quoi il parle ce con-là? Il faut être raide à l'acide pour trouver qu'un joueur ressemble à un cafard. Tu te merdes.
Tous les lundis à 21h sur Radio Canu.
Cannabis Circus.
Cannabis Circus.
Cannabis Circus, bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est sur Radio Canus, en 2.0, c'est la plus rebelle des radios, et donc c'est l'émission du cirque du collectif d'information et de recherche cannabique. Ah, voilà, voilà. Bonjour. Et bonne nouvelle, maintenant on va avoir une coalition, et comme en Allemagne, et ben pour se mettre d'accord, et ben... Et ben, on va légaliser la cannabis, et puis voilà. Comme ça, on arrivera à faire la grande union. Parce qu'il faut qu'ils fument pour arriver à tous se mettre d'accord. Hein.
C'est bien que tu sois optimiste.
Il faut, hein. De toute manière, il y a eu un miracle, alors il peut y en avoir d'autres. Hein.
Je suis pas sûr que celui-ci advienne, mais.
J'aurais pas parié un copec sur le nouveau Front Populaire la semaine dernière, hein, mais bon. Bref.
Si tu veux, le problème, c'est pas qu'il puisse y avoir un miracle, c'est que ça fait plus partie du projet, là. Hein.
C'est ça, oui, c'est pas dans le projet.
C'est ça qui est inquiétant, en fait.
C'est pas dans le projet. Mince. Bon, allez. Revenons au cannabis. Donc, on parlera pas de l'Allemagne cette année, mais cette fois.
On en a parlé la semaine dernière, mais. Ah. Parce que c'était le 1er juillet.
Oui, ah oui, il y avait la deuxième vague de légalisation.
Voilà, alors on en a parlé, et puis bon, de toute façon on en parle. Alors cette semaine on va pas en parler, mais ça se trouve on en reparlera la semaine prochaine. Si c'est pas la semaine d'après, on en parlera, parce que peut-être que... Après le 22 juillet, on sera peut-être plus là, mais peut-être au mois de septembre on en reparlera, quoi.
Ouais, tout à fait.
Voilà.
Voilà, donc nous on va faire un tour du côté des lois, des délits de conduite sous stupéfiants. Voilà, donc il y a quelqu'un qui est assez vénère, qui s'est fait condamner deux fois, qui a plus de permis, etc. Donc qui veut aller jusqu'au bout sur l'anticonstitutionnalité de cette loi. Peut-être qu'il va gagner, en tout cas il a déjà franchi le premier obstacle. Bref, on va revenir là-dessus, puis on ira faire un tour en Europe. À Jersey, où ils ont raté la dépénalisation d'une voix, 22 contre 23, 23 contre 22, ouais, c'est pareil, bon, d'une voix, ils l'ont raté. L'Italie, c'est le cannabignol qui va être peut-être de nouveau reclassé comme stupéfiant, c'est un peu surréaliste, mais c'est comme ça.
En tout cas, c'est ce que Meloni et son gouvernement veulent faire.
Et puis après, on ira voir d'autres petites choses, des petites brèves, sur d'autres produits. On ira faire un tour sur du côté du microdosage des psychédéliques et du cannabis. Voilà, c'est les doses homéopathiques.
Le microdosage, on va voir. On va voir de quoi il s'agit. Voilà.
Voilà. Puis après, on parlera de la forme de certains trucs.
Chose assez effrayante.
Assez étrange. On ne sait pas pourquoi ni comment, mais bon, ça fait discuter. Et on finira par les opioïdes de synthèse, les nitazènes, qui vont être interdits en France demain.
Oui. Puis on va voir d'où ça sort ce truc. Et c'est pas génial. Ouais. Il faudra faire attention.
Panier avec l'opiacé, faut faire attention. Voilà, c'est ce que je recommanderais personnellement. Voilà, et puis on va faire un petit souvenir.
Oui, alors ça fait déjà deux lundis qu'il y a un peu en début d'émission une petite rubrique nécro, puisque on a eu des camarades de lutte qui ont disparu ces dernières semaines. La semaine dernière, on parlait de Pascal Pérez, qui était un des pionniers de la réduction des risques, un ami de Valère Rogissard, lui-même disparu il y a quelques semaines. Et puis, là, en ce qui nous concerne, plus proche de nous, à Lyon en tout cas, c'est notre camarade et ami et notre pote Luc qui nous a quittés. C'était samedi 29 juin, donc il y a quelques jours. Voilà, on est hyper triste. Voilà, on savait qu'il allait pas très bien ces derniers mois. Enfin, depuis un an, il allait même vraiment mal. Et bon, je vais pas rentrer dans le détail, mais
C'est ce qu'on appelle les longues maladies. Et oui, c'est toujours très dur.
Voilà, c'était un petit peu attendu. C'est arrivé très vite, trop vite. Voilà, et ben on pense à lui. Alors, je sais pas, il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui se disent tiens, mais je le connaissais. Donc voilà, c'était un camarade du cirque qui était au tout début du cirque à Lyon en 93 quand il est arrivé à Lyon, parce qu'il venait pas de, c'était pas un Lyonnais à la base. Et il avait été au début du cirque. Et il a suivi le cirque, accompagné le cirque, et milité, était un acteur du cirque. Vous l'avez vu tous les appels du 18 juin, les marches mondiales. Voilà. Et puis ben voilà, il a disparu et on est très triste. On pense à lui, on pense à sa compagne également. Et on espère que il aimait pas les hommages ni tout ça. Il voulait quitter le monde d'une manière très discrète, mais bon, voilà, nous on pense quand même à lui. C'était notre pote. On est bien triste et on pouvait pas ne pas lui rendre hommage au cirque à Lyon. C'était pas possible. Voilà, donc voilà. Je sais pas quoi dire de plus, hormis que je suis triste et que je regrette vraiment son départ. Voilà.
Voilà, et ben en hommage à cette époque, je vais vous mettre le premier CD du cirque et je vous mettrai Extrême Onction.
On dit 1, on dit 2, on dit 3, on dit 4, allez.
Extrême Onction, hein.
93
Baouka,
c'est ça.
Ouais,
voilà, donc effectivement
93 ou à peu près dans ces eaux-là.
Voilà, il y a plus de 30 ans. voilà, donc
d'ailleurs c'est l'année de nos 30 ans.
93
Non, 2024.
Ben 31.
31 oui. Ah, 80, oui, c'était 92 Paris, 93 à Lyon. Oui,
91 Paris.
91 même, voilà.
Ouais. Ouais, bah, c'était pas la peine de faire du mal.
Bah ouais, à l'époque, on croyait que ça serait légalisé avant l'an 2000. Hein.
Ouais, ou en l'an 2000, enfin, en tout cas, dans ces eaux-là, quoi. Voilà. Voilà, donc on va dire que c'était un peu la chanson hommage à notre pote qui, bah, c'était une chanson d'époque, 93, ouais, quand il a rencontré le cirque. Donc voilà, ben, en tout cas cette émission lui est dédiée ce soir, sans souci. Voilà, et eh bien maintenant on va s'intéresser à un sujet qui nous passionne, qui nous préoccupe plutôt au cirque, c'est tout ce qui est lié à la conduite, le cannabis et la conduite. Et
sous stupéfiant.
Ben ouais, puis sous cannabis, parce puis qu'il sous stupéfiant en fait aussi, oui.
Il est toujours interdit de conduire après.
Après avoir fait usage de.
Ouais, après avoir usage de, mais sans distinction de temps. Et comme le cannabis reste pendant une semaine dans le... dans l'urine, même si on n'est plus actif.
Ça peut rester un mois, même. Si on est un fumeur régulier, ou un consommateur régulier, oui, ça peut rester un mois. Ouais.
Voilà, donc du coup, c'est très problématique.
Voilà, et donc, il y a une cagnotte litchi, parce que là, le texte que je vais vous lire vient de la cagnotte litchi, vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous lire ce texte, intégralement, qui n'est pas très long, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Voilà. Le 2 juillet 2024, le tribunal correctionnel de Bergerac a décidé de transmettre à la Cour de cassation trois questions prioritaires de constitutionnalité, donc trois QPC, qui sont posées par Xavier et soutenues par maître Nicolas Hachet, avocat au barreau de Bordeaux. Ces questions portent sur les articles L235-1 et L235-2 du Code de la route relatifs au délit de conduite après avoir fait usage de plantes ou de substances classées comme stupéfiants. Ce délit est puni de la peine de 2 ans d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende. Il autorise également la juridiction à suspendre, voire annuler le permis de conduire du condamné et au préfet de suspendre le permis de conduire dans l'attente du procès à venir, jusqu'à 1 an. L'affaire ne serait pas choquante si ce délit ne sanctionnait que les personnes qui conduisent sous l'emprise de l'effet psychotrope d'un produit stupéfiant. Étant rappelé que les peines encourues ne sont que des peines maximales et que le juge doit personnaliser la peine en fonction de la gravité des faits et de la personnalité du prévenu, compter pour du cannabis, c'est pour un délinquant primaire 6 mois de suspension de permis, 200 à 300 € d'amende, parfois un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou au danger des produits stupéfiants, et une belle inscription pendant 40 ans sur le bulletin numéro 1 de votre casier judiciaire et 5 ans sur votre bulletin numéro 2. Inscription qui vous empêchera d'exercer dans certains boulots, voire de perdre votre boulot actuel, bien entendu, pour les récidivistes. Ça se complique. L'injustice tient dans ce que ce délit sanctionne également les conducteurs qui ont fait usage de cannabis CBD et les conducteurs qui ont fait usage de cannabis THC plusieurs jours avant le contrôle. Alors que le cannabis CBD n'est pas psychotrope et que les effets psychotropes du cannabis THC ne durent que 2 à 4 heures. Ainsi, Xavier, condamné il y a 3 ans pour une conduite après avoir fait usage de THC, a décidé de ne consommer plus que des fleurs de cannabis CBD achetées en boutique. Pour autant, il a été testé positif aux stupéfiants. Son permis est actuellement suspendu par décision préfectorale et il a été convoqué au tribunal mardi 2 juillet. Donc là, petite parenthèse juste, hein, pour, voilà, il est donc récidiviste, enfin considéré comme tel.
Tout à fait.
Xavier a décidé de ne pas courber les chines et avec son avocat, il a soulevé plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité. Cette procédure permet au justiciable, d'interroger la conformité d'une loi aux droits et libertés que la Constitution garantit. En l'espèce, Xavier soutient que la réglementation actuelle porte une atteinte excessive à sa liberté individuelle et plus particulièrement à sa liberté d'aller et venir, que la législation ne respecte pas le principe d'égalité devant la loi au regard du traitement réservé à l'alcool au volant, que son droit à la personnalisation de la peine en fonction de la gravité des faits n'est pas respecté dès lors qu'on veut le juger sans connaître les taux et le dosage exact du THC trouvé dans sa salive. Mais première victoire, donc chose positive, le tribunal a suivi les arguments développés par maître Hachet et a décidé de transmettre les questions à la Cour de cassation. Il s'agit maintenant de convaincre la Cour de cassation afin que les questions transmises soient renvoyées devant le Conseil constitutionnel, seule institution compétente pour invalider une loi. Cette victoire bénéficierait alors à toutes et tous et enlèverait à chacun et chacune une sacrée épine du pied. Pour mettre toutes les chances de son côté, Xavier a décidé de s'adjoindre des services d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, avocat spécialisé, seul capable d'intervenir à ce stade de la procédure. Xavier, qui ne peut bénéficier de l'aide juridictionnelle, et donc c'est là où le lien Cagnotte-Litchi prend tout son sens, donc Xavier qui ne peut bénéficier de l'aide juridictionnelle compte donc sur votre aide pour financer ces questions. Si les professionnels du CBD sont en premier lieu sollicités, les dons personnels, quel que soit leur montant, sont plus que les bienvenus. Si vous n'avez pas vraiment de quoi participer, alors faites tourner l'info. Donc la cagnotte, elle est gérée par son avocat maître Nicolas Hachette, qui est lui-même en contact avec d'autres avocats du Conseil d'État et à la Cour de cassation. Donc si ce sujet vous paraît important, que vous souhaitez aider Xavier, eh bien c'est tout simple, vous allez sur le site litchi.com et il doit y avoir une barre de recherche et vous tapez « Réformons le délit de conduite sous stupéfiant ». Donc je répète, www.litchi.com. Et une fois que vous êtes sur le site, eh bien, il faut taper « Réformons le délit de conduite sous stupéfiant » ou « Délit de conduite sous stupéfiant », je pense, voilà, que vous devriez arriver.
C'est tout attaché site. Avec « et réformons, après réformons un tiret, après le un tiret, après délit, un tiret, après de un tiret,
oui, mais on n'en est pas obligé de faire comme ça.
Voilà, sous tiret, stupéfiant, avec un S.
Non,
voilà.
Mais c'est pour ça qu'il y a des barres de recherche sur les
ouais,
sites.
Ouais, maintenant c'est l'intelligence artificielle et ça va retrouver même quand on fait des fautes d'orthographe.
Donc voilà, vous mettez réformons le délit de conduite sous stupéfiant ou conduite sous stupéfiant, je pense que vous devriez arriver sur la bonne page, le bon texte. Et voilà, il y a déjà à peu près 600 euros qui ont été récoltés. C'est une initiative de Normal France. Je précise, parce que ça ne vient pas du cirque, même si nous avons fait notre part du travail sur la question de l'injustice au niveau du cannabis au volant. Alors là, c'est vraiment voilà, on parle du CBD. Bon, le problème, à mon avis, il n'est pas que parce que on détecte du THC après avoir pris du CBD. Si vous voulez, le problème, à mon sens, c'est que déjà les tests salivaires sont beaucoup trop large, ils ratissent beaucoup trop large. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en Allemagne, avec la loi, ils ont revu les dosages sur les tests salivaires. Premièrement. Deuxièmement, la loi française, comme c'était bien expliqué dans le texte, ne prévoit pas, enfin le texte prévoit de vous sanctionner si vous avez fait usage après avoir fait usage de. C'est-à-dire qu'en fait, on ne cherche pas à savoir si vous êtes sous l'emprise de. À partir du moment où vous êtes détecté positif, peu importe que ce soit vous ayez consommé il y a une heure ou il y a 10 jours. Si on en retrouve dans votre salive, vous êtes positif. Et même si vous ne conduisiez pas sous l'influence du produit. Voilà. Ce n'est pas du tout une loi de sécurité routière. Hein. Ça, c'est un discours qu'on martèle au cirque depuis plus de 10 ans. C'est pas une loi de sécurité routière, c'est une loi répressive pour arrêter des consommateurs, tout simplement.
C'est pour ça que, alors je sais pas où ils en sont avec leurs tests salivaires sur les piétons, mais voilà, ça va devenir compliqué aussi, ça.
Disons que là, au moins, ça sera cohérent. On verra bien. Si jamais ils devaient faire ça, on comprend. Enfin, voilà, ce seront les mêmes tests salivaires. Est-ce qu'on comprendra que c'est pas fait pour, enfin, que c'est pas une mesure de sécurité routière? Mais que c'est une mesure répressive pour...
De sécurité pour piétons.
Ouais. C'est-à-dire qu'on ne peut pas marcher à plus de 4 km/h, c'est ça? Ouais. Au-delà de 4 km/h.
On est verbalisé.
On est verbalisé. Non, mais là, voilà, c'est ni question de vitesse ou de je sais pas quoi, c'est juste savoir si vous en avez déjà pris, que ce soit il y a une semaine ou 10 jours ou une heure. Et vous êtes positif et donc vous êtes coupable. Voilà. Et ce qui nous avait été présenté en 2000, je me rappelle plus en quelle année que ça a été faite la loi, c'est une loi Sarko. On nous avait présenté ça comme une loi de lutte contre l'insécurité routière, blablabla. En fait, non, pas du tout. C'est une loi qui est faite pour choper des fumeurs, quoi.
Ouais, c'était après le drame de la petite Marie-Lou. Oui,
mais bien après, même. Parce que c'était en 2003.
Ouais, mais c'est quand même ça qui
oui,
a
oui, bien sûr,
tout le processus, voilà.
Tout
en
à
sachant
fait.
Que la, la petite, elle a été tuée par un jeune qui avait bu, qui n'avait pas de permis, qui n'avait pas d'assurance, forcément, puisqu'il n'avait pas de permis, et en plus, qui avait pris du cannabis. Mais le cannabis, c'était loin d'être la seule facteur.
Non, bien sûr, oui. Mais bon, en tout cas, voilà, cette loi, elle est toujours en vigueur, et avec cette action qui est intentée par les avocats de Xavier, peut-être que la cour de la, comment dire, le, j'ai mangé le nom de l'autorité compétente constitutionnelle. Voilà, je suis très sceptique. Je pense que malheureusement là c'est voilà.
Ouais, mais je suis très sceptique. Je pense que l'interdiction du cannabis est aussi inconstitutionnelle. C'est à partir du moment où si ouais, tu
c'est
plantes,
un peu, c'est
tu,
un peu tard.
Tu consommes...
C'est un peu tard, c'était en 1970 qu'il fallait...
Oui, mais ça n'empêche pas
qu'elle voilà, le soit, alors, oui,
c'est
d'accord.
C'est une atteinte
oui.
à la liberté à partir du moment où on gêne pas autrui, quoi.
Certes. Enfin bon, voilà, du coup, il y a une action en justice, ça, je trouve que c'est une très très bonne chose, ça va permettre aux avocats de montrer les incohérences de la loi, et même si le Conseil constitutionnel n'entend pas, parce que je doute qu'ils l'entendent, parce que quand même là, dans ce qu'ils disent, ils parlent de niveau de consommation, de taux, de... Bon, c'est interdit. Même si c'est du CBD, il y avait du THC, le THC est interdit. Voilà, bon, malheureusement, je suis pas certain. Mais bon, j'espère me tromper une fois de plus, comme d'habitude. Parce que des fois, heureusement, j'ai tort. Heureusement. Surtout sur des histoires comme ça juridiques. Sinon, vraiment pas beaucoup d'espoir. Voilà. Allez, on va aller à Jersey maintenant.
Ouais, pas très loin.
Pas très loin.
Jersey, petite île anglo-britannique, quoi, oui.
Ou anglo-normande.
Anglo-normande, ouais, pas loin de.
Bah, pas loin de nos côtes, mais en Angleterre.
C'est ça.
Voilà, Jersey et Guernesey.
Et donc, cette île a décidé de ne pas dépénaliser.
Oui, c'est passé pas loin.
23 voix contre 22.
Ouais, c'était vraiment. Mais bon, en même temps, c'est pas si négatif. Puisque en fait, il va falloir qu'il. Alors non, je me suis perdu, excusez-moi.
Bah déjà, ils en ont discuté, c'était bien. Ça leur a pris 4 heures de débat sur 2 jours, voilà. Il y avait des motions avec différentes parties.
Ah, mais voilà, mais c'est ça que je voulais vous dire. C'est qu'en fait, effectivement, il n'y a pas eu de dépénalisation, mais le Conseil, en fait, a voté pour demander au ministre de revenir avec des propositions visant à assouplir les lois qui restreignent sa consommation, qui est déjà plus ou moins dépénalisée dans les faits. Donc en fait, finalement, ils sont pas pour la dépénalisation, mais en gros, bon, le message qu'ils envoient au gouvernement britannique, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour rendre ça plus légal ou que ce soit plus clair.
Voilà,
finalement,
bon.
donc c'est pas un échec total,
c'est un succès partiel. Ça met ça les met sur la voie de l'élaboration de réglementations sur la façon dont nous pouvons aborder le cannabis à l'avenir.
Ouais.
Rapporte la BBC, donc Jersey est rapidement devenu un pôle d'attraction pour les entrepreneurs britanniques du cannabis, obtenant plus de 60 millions de livres sterling d'investissement de la part d'entreprises de cannabis médical depuis 2016.
Oui.
Ouais, donc comme quoi, c'est pas non plus une paille tout ça.
Non, et puis sachant qu'une autre île, c'est l'île de Man, c'est également positionné pour devenir un leader de la production de cannabis thérapeutique. L'île de Man, c'est à la fin de l'article, cherche à renforcer son offre de cannabis médical. Donc, voilà. Et Jersey aussi, parce qu'à Jersey, il y a le Jersey Cannabis Advisory Board, une organisation qui est indépendante, qui réunit des entrepreneurs, des entreprises et d'autres parties prenantes de l'industrie réglementée du cannabis, dans le but de développer le secteur et sa réglementation sur l'île. Bon, là, pour le cannabis. Hein. Mm-hmm. Sa représentante, qui est une avocate britannique, s'appelle Sarah Clover, elle a déclaré que l'île de... Elle a déclaré, voilà, elle voudrait que l'île devienne un leader mondial dans l'industrie réglementée du cannabis. Donc, Jersey, l'île de Man... Voilà. Voilà. Donc bon, il y en a qui ont de la suite dans les idées dans ces îles anglo-normandes, enfin dans cette île anglo-normande, parce que l'île de Man n'est pas située du tout au même endroit, c'est plutôt entre l'Irlande et l'Angleterre. Voilà.
Mais bon, sur les îles, ça doit être plus facilement protégeable.
Ouais, ok. Je sais pas.
Je sais pas.
Allez, un peu de musique.
On fait l'Italie avant, non? Ou
un peu de musique, on a le temps.
Allez, musique.
À tout de suite.
Respect to the max, all ganja smoker, all over the world. Big up Rochester. Respect au maximum pour tous les jeunes qui fument de la sensimilla, marijuana, toutes les qualités, la skunk, la thaï, la indica. Pound the redeem, yes we physically fit because
we don't wanna crack and no cocaine.
Oh, oh.
All that me want is a pure slang thing.
Yes,
we don't wanna crack and no cocaine. All that me want is a good slang thing. Give me the sensei.
La bonne.
You know dance with Irie.
Sensimilia.
Yes, we feel Irie. Wanted in a Paris, in a every country, yeah. Not in a Tokyo, yes, from New York City. All of the youth want a good sense, it's sensimilia.
Oui, c'est ça dans mon esprit. Elle devrait être en vente dans toutes les pharmacies. Je veux la sensi, l'original sensi.
Ah bon,
elle devrait être en vente dans toutes les pharmacies.
Alors, donne-moi l'herbe, la panacée des nations.
Car c'est la plante de la sagesse et de la guérison.
Oui, donne-moi l'herbe, la panacée des nations.
C'est la plante de la sagesse et de la guérison.
Monsieur Ricky, je reviens à parler. Je revendique le droit de librement fumer mon spliff dans The Riz, là ou du OCB. Partager un joint est un moment privilégié. Que ce soit du Black Hush ou de la Sensei. Dans tous les pays et tous les quartiers, c'est un calmant décidément très apprécié.
C'est
pour ça qu'il est temps de la dépénaliser.
Parce que l'herbe, c'est ça qui est dans mon esprit. 24 sur 7, j'ai brûlé la scène. Si je dis la weed, c'est ça qui est dans mon esprit. On devrait la trouver dans toutes les pharmacies.
Parce qu'on aime, on a plaisir à fumer de la bonne ganja. Parce qu'on aime, on a plaisir à fumer sensimilia. Parce qu'on aime, on a plaisir à fumer de la bonne ganja. Parce qu'on aime, on a plaisir à fumer sensimilia.
Tu vas de Belleville jusqu'à Opéra, à Lyon, à Marseille, dans tous les endroits. Aux États-Unis, aussi au Ponja.
Ah,
tout le monde aime bien brûler la bonne ganja.
Cannabis, syndica, rappelez-vous de son nom. On a trouvé un plan d'herbe sur la tombe du roi Salomon. Cette plante apporte la sagesse et la méditation. Au nord et au sud, il y a des plantations. À l'est et à l'ouest, il y en a à profusion. La marijuana pousse sans limitation. La légaliser serait la meilleure solution.
C'est pour la sensi
que nous militons. Alors,
yes, moi j'aimerais prendre un petit break, man, pour cool out les vibes et fumer un spliff avec les frères, you know.
Eh ouais, 24 sur 7, la bonne weed. Non, dis-leur ça, Ricky, man.
We don't wanna crack and no cocaine. All that me want is a good slang take.
C'est vrai.
We don't wanna crack and no cocaine. All that me want is a good slang take. Give me the tie, the cess and the indica. No matter what race and what color. Give me the sensei. Yes, we want the sensei. Yes, give me the sensei. Yes, we want a sensei. Sensei, 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 sensei.
So all weed, it a dip on me brain.
Yes, we run a muffin and we burn to champagne.
So all weed, it a dip on me brain.
It a flip on 24/7.
Alors, donne-moi l'herbe, la panacée des passions.
C'est la plante de la sagesse et de la guérison.
So donne-moi l'herbe, la panacée des nations.
Car c'est la plante de la sagesse et de la guérison.
Parce qu'on aime, on a plaisir à fumer de la bonne ganja. Parce qu'on aime, on a plaisir à fumer sensimilia. Parce qu'on aime, on a plaisir à fumer de la bonne ganja. Parce qu'on aime, on a plaisir à fumer sensimilia. Parce qu'on aime, on a plaisir à fumer de la bonne ganja. Parce qu'on aime, on a plaisir à fumer sensimilia.
Sensimilia, 24 sur 7, j'aime bien brûler la ganja, ganja, ganja,
Ramsès, je te conseille d'aller à la campagne avec les Rasta, fumer un gros chalice.
Allez, celle-là, je vous la remets dès le début à la prochaine. Parce que juste avant, on s'était écouté Sai Sai à la panacée, puis là, on était parti sur nos souvenirs.
Ouais, on discutait avec, avec le chasseur de son, on parlait de notre camarade disparu. Voilà, parce qu'on le connaissait et puis que on est bien triste. Allez, on va parler un peu de l'Italie. L'Italie qui
tente de reclasser le cannabidiol comme stupéfiant.
Cannabidiol,
oui.
Ouais, non, on a compris cannabidiol.
Le CBD, le cannabidiol.
Voilà, très bien. Voilà, donc le gouvernement italien qui a déposé très récemment un nouveau décret donc qui vise à classer donc le CBD à usage oral dans la catégorie des stupéfiants. Et apparemment, ce décret, d'ici 30 jours, ça pourrait entrer en vigueur et il pourrait avoir force de loi. Même s'il peut faire, il peut faire l'objet d'un appel de la part du tribunal administratif italien. Le décret qui reprend le cadre établi par le précédent décret Speranza, qui avait été cassé par le tribunal administratif italien en 2023, mais cette fois introduit de nouveaux avis de l'Institut supérieur de la santé et du Conseil supérieur de la santé. Écoutez bien, parce que ça vaut quand même le détour, suggérant que ces institutions disposent désormais de preuves scientifiques suffisantes pour étayer cette classification. Non mais, on croit rêver quoi. Je sais pas d'où ils sortent ça, mais
bref, ils trouvent ça un petit peu surréaliste hein, comme situation. C'est Giacomo Belleni,
Bouleri,
c'est exact. Avocat spécialisé dans ce domaine, il va falloir que je change de lunettes.
Si tu veux, je te prête les miennes. Avocat spécialisé dans ce domaine s'est exprimé sur LinkedIn et auprès de dolcevitaonline.it sur les implications du fameux décret. Donc comme tu disais, oui, cette situation est qualifiée par ce monsieur, cet avocat de surréaliste.
Oui, parce qu'il y a la Cour européenne de justice selon laquelle il ne devrait pas être considéré comme un stupéfiant. Il y a aussi les recommandations de l'OMS qui datent de 2020. Et l'OMS avait déconseillé à tous les pays membres de ne pas classer les produits à base de CBD, en particulier ceux dont le taux de THC ne dépassait pas 0,2% de la catégorie des stupéfiants. Voilà, donc cette inclusion soulève des questions quant à la nécessité scientifique et à la proportionnalité de la décision du gouvernement. Voilà.
Oui,
Et ça a pas mal d'impact quand même sur toute l'économie italienne, mine de rien, ou en tout cas sur un parti, puisque il y a quand même beaucoup de... Comment dire parce que bon, ça touche que la voie orale, donc on pourra continuer à faire des pommades et tout ça à base de CBD, en tout cas les différentes industries italiennes, mais ça jette une incertitude sur l'utilisation du CBD dans les produits alimentaires, donc voilà, c'est pas facile. Et surtout, c'est que C'est que je crois quand même l'Italie était dans les bons producteurs de CBD, mais bon, en tout cas, bon, l'Italie serait la seule à revenir et à classifier l'herbe à base de CBD comme un stupéfiant. Ce qui entraverait la croissance commerciale et industrielle du pays. Voilà.
Ouais, moi ce que je crains, c'est que ça donne malheureusement des idées à certains politiques français. Voilà, je le dis carrément, je pense que ça va... Il y en a qui vont suivre... Il y en a qui pourraient être inspirés par cette décision italienne, et pas forcément...
Pour l'instant, ils ne sont pas passés.
Non, mais on n'a pas besoin d'avoir des gens du Rassemblement National pour aller faire des lois pourries comme ça.
Oui, voilà, mais bon, ils ne sont pas passés quand même.
Un Darmanin, on est tout à fait capable, et puis si ce n'est pas lui, c'en est un autre, et on le sait bien, quoi.
Voilà. Oui, même des gens qui se disent à gauche comme Valls seraient capables de le faire, tout à fait.
Ouais. Bon, alors à suivre, on tiendra au courant bien sûr de la suite. Voilà, on va parler maintenant d'un sujet dont on parle assez peu, c'est tout ce qui concerne le microdosage de substances psychoactives, enfin leur utilisation en microdosage. Alors c'est c'est un article de Newsweek, c'est suite à une étude qui a été publié dans l'American Medical Association, l'AMA, ainsi que le JAMA Health Forum, qui révèle une augmentation spectaculaire des recherches Google, donc des recherches sur Internet liées au microdosage à partir de 2015, et notamment entre 2015 et 2023. Alors c'est une étude sérieuse, quand même, été faite par des chercheurs de l'Université de Californie à San Diego, qui met en évidence l'influence des changements politiques locaux et nationaux sur la curiosité du public à l'égard de cette technique de dosage. Je reconnais, hein, j'avoue que je connais très mal ce sujet, mais on va s'y intéresser donc dans l'espace de cet article.
Il y a quelques années, quand les champignons étaient légaux et les champignons secs étaient légaux en Hollande.
Oui.
Il y avait aussi des tablettes de chocolat au psilocybe. Et voilà, après,
oui, je crois qu'il y en a encore. Hein.
Voilà, je crois qu'il n'y en a plus, mais
d'accord.
Bon, ça doit peut-être se trouver, sans doute. Et avec Justin Carré, ça ne faisait pas beaucoup d'effet, ça était juste un petit. Ça réveillait un petit peu les neurones, quoi. Comme un guéronzan ou quelque chose comme ça.
Je savais pas que le huronzan réveillait les neurones, mais bon.
Ouais, ou de la vitamine C, ou voilà, je sais pas quoi.
Idem, bref.
Dans le huronzan, il y a les deux. Bah, ça réveille, quoi.
D'accord, ouais. Tu m'as coupé, je me suis perdu. Donc voilà, les chercheurs ont utilisé un modèle de différence dans les différences entre les événements pour évaluer les effets causaux des changements de politique. Ils ont découvert que les recherches sur le microdosage sont restées stables jusqu'en 2014, puis qu'après 2014, elles ont explosé avec une augmentation cumulative d'un facteur de 13,4 entre 2015 et 2023. Rien qu'en 2023, il y aura eu 3 millions de recherches sur le microdosage aux États-Unis, mais plus précisément, donc, l'étude a révélé quoi ? Eh bien, que les lois locales de dépénalisation des psychédéliques étaient liées à une augmentation de 22,4 par million des taux de recherche de microdoses. Les lois de réforme des psychédéliques à l'échelle de l'État ont été associées à une augmentation de 28,9 pour 10 millions. Bon, là, ça ne nous parle pas trop. Les lois sur l'usage du cannabis à l'échelle de l'État pour les adultes ont augmenté les taux de recherche de microdosage de 40,9 pour 10 millions. Et la légalisation du cannabis médical a entraîné une augmentation de 11,5 pour 10 millions. Les auteurs de l'étude soulignent la responsabilité de la communauté médicale qui doit veiller à ce que les patients aient accès à des traitements sûrs, efficaces et fondés sur des données probantes.
Ouais, donc une dose, je pense, c'est des milligrammes ou des grammes pour un million de grammes.
Ouais.
Donc voilà, pour un gramme, on est dans des nanogrammes, voire en dessous. Donc on est à plus de 1 pour 1 million en 10 puissance 7, donc ça fait pas mal. Hein. Voilà, c'est quasiment c'est de l'homéopathie, quoi, quelque part.
Ouais, ok. Alors, bah, c'est un... Oui.
Bah, c'est similaire, ça peut se comprendre comme ça. Des toutes petites doses.
Voilà. Alors,
après, d'autres ont fait des études avec pas des microdosages, hein, dans ce qu'on a lu aussi dans les études qu'il y a eu. Reprenons donc ce texte.
Oui, alors justement, l'intérêt, alors c'est d'après les chercheurs, hein, l'intérêt du public pour l'utilisation des psychédéliques et du cannabis à des fins de santé s'accroît. Et d'ailleurs, ils admettent qu'il faut que la communauté médicale mène des études afin d'établir une base de preuves solides de leur sécurité et de leur efficacité, puisqu'en l'absence de recherches scientifiques rigoureuses, les gens qui veulent avoir recours à des thérapies alternatives par microdosage qui sont pas éprouvées, ils s'exposent à des risques potentiels. Ça, c'est sûr. Et là, il y a un professeur qui est cité, Eric Léas, qui est professeur adjoint de santé publique et auteur principal de l'étude. Et lui, il a souligné les risques juridiques et les préoccupations liées à l'impureté des produits en raison de l'absence de normes de fabrication pour des substances telles que la psilocybine, justement, qui reste inscrite à l'annexe 1 de la loi fédérale. L'étude conclut qu'il existe un besoin urgent d'études cliniques rigoureuses pour évaluer le profil de sécurité et les bénéfices potentiels du microdosage, s'il y en a. Oui, potentiel donc. Et ces recherches sont essentielles pour éclairer les pratiques fondées sur des données probantes et l'élaboration de politiques conformes à l'intérêt public. Et ces mêmes chercheurs appellent à une surveillance accrue de la population afin de comprendre qui pratique le microdosage, quelles en sont les raisons et comment ces pratiques pourraient évoluer en fonction de l'évolution du paysage juridique, et j'ajouterais même politique en fait. On sait aujourd'hui qu'aux États-Unis, il y a tout un contexte qui, je dirais, quand même plus favorable d'une manière générale à toutes ces substances, hein, parce qu'on sait bien qu'il y a aujourd'hui une majorité d'États qui ont adopté une forme de légalisation du cannabis, et un nombre croissant d'États et de localités aux États-Unis qui s'efforcent de réformer également les lois sur les psychédéliques. Le directeur du National Institute of Drug Abuse, le NIDA, a fait remarquer que le train a quitté la gare en ce qui concerne les psychédéliques, reflétant ainsi l'élan du mouvement de réforme, mais que même si l'interdiction fédérale demeure, une autre agence fédérale américaine a récemment reconnu les avantages potentiels des psychédéliques, notamment pour le traitement des troubles liés à la consommation d'alcool, de l'anxiété et de la dépression. Des recherches qui ont été financées par le gouvernement fédéral et explorent les effets de la psilocybine sur la douleur, les migraines, les troubles psychiatriques et d'autres pathologies. Et des recherches récentes sur la psilocybine, toujours, substance qui est plutôt populaire, notamment pour le microdosage, ont donné des résultats intéressants. Et une étude a même montré qu'il est peu probable qu'une seule expérience de psilocybine modifie les croyances religieuses ou métaphysiques des individus, bien qu'elle puisse affecter leur perception de la conscience chez les animaux, les plantes ou d'autres objets.
Voilà. Il y a des stages d'ailleurs, on peut faire, vous cherchez stage de psilocybine sur internet, vous trouvez, c'est cool.
Oui. Oui, mais comment trouver le bon stage avec les bons encadrants? Parce que c'est ça qui est compliqué. Je pense qu'on peut trouver tout. On peut trouver des stages proposés et encadrés par des gens complètement farfelus et pas très. Pas forcément bien intentionnés, et puis d'autres qui le sont beaucoup mieux. Parce qu'on sait bien qu'on peut tout, on peut voir de tout, quoi. Hein. Donc prudence quand même.
Eh oui, il y a de tout dans l'être humain, le pire et le meilleur.
Voilà.
On cherche encore le meilleur.
Pour ce micro-dosage, tout à fait. Remusique ?
On se fait les pilules là d'ecstasy là, ce truc à la con là.
Ah là là.
Non mais des pilules d'ecstasy de LSD en forme de symbole nazi envahissent l'Europe quoi.
Oui. Oui, c'est vrai que moi quand j'ai lu ça tout à l'heure, je me suis un peu étranglé aussi, je reconnais. Et voilà, en tout cas, c'est une réalité depuis quelques mois. Alors la première fois depuis l'année dernière, la fin de l'année dernière, hein. En tout cas, c'est à Kerkrade, aux Pays-Bas, qu'on aurait trouvé ça en premier. Donc, la police a fait une saisie à Kerkrade, aux Pays-Bas, par hasard, lors d'un contrôle routier. Elle a mis la main sur un gros sac de pilules d'ecstasy à l'iconographie nazie. Alors, c'est un phénomène qui est plutôt récent, mais qui est en vogue. Et la docteur Zoé Dubu, que je n'arrive pas à retrouver. Voilà, membre de la Société psychédélique française, voilà, je vais y arriver. Donc, docteur Zoé Dubu, qui s'intéresse à ce sujet, qui était interrogé par Slate.fr, parce que c'était l'article nous vient de Slate.fr du 2 juillet. Qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, des pilules, des cachets de MDMA, d'un rose fuchsia avec l'insigne SS, c'est horrible. D'autres, on a vu aussi des pilules de LSD ornées d'une swastika en Islande. C'était il y a 2 ans déjà, donc c'est pas nouveau, ça fait déjà 2 ans que ça tourne. Au Pérou également, on a retrouvé 58 kilos de cocaïne à destination de la Belgique dans des emballages exhibant le drapeau de l'Allemagne nazie. C'est fou, je comprends pas vraiment. Et pour être certain de plaire à la clientèle, des fabricants avaient même gravé le nom d'Adolf Hitler sur des briques. Et oui, en 2024, donc Zoé Dubu, donc membre de la Société psychédélique française, mentionne d'autres 4 pilules à l'imagerie évocatrice en Suisse, mais aussi en Irlande et, comme on vous le disait, donc aux Pays-Bas. C'est vraiment vraiment fou. Alors il y a
c'est vraiment un truc qui vient de partout, parce que a priori toutes ces pilules ne viennent pas toutes du même fabricant.
Non, pas du tout, non.
C'est ça le pire, quoi. On ne sait pas vraiment pourquoi il y a ce goût de nazi là-dedans, quoi.
Alors il y a un chercheur, hein, le docteur Brian Pace, qui est chercheur affilié au Centre de recherche et d'éducation sur les drogues psychédéliques de l'Université d'État de l'Ohio aux États-Unis. Qui coupe court à toute tentative de rigolade mauvais goût. Il dit non, essayer de minimiser, d'excuser ça comme une mauvaise plaisanterie serait admettre que l'on peut plaisanter avec sans adhérer un minimum à ses idéologies. Les seules personnes qui trouveraient ça drôle sont des fachos, point. Voilà. Alors, dans cet article de Slate, on nous parle du contexte politique et électoral en Europe. On nous rappelle les résultats des élections au début du mois au niveau des européennes, puis des législatives dernièrement. Apparemment, ça pourrait correspondre à une clientèle qui a cette idéologie, et effectivement, ça pourrait les séduire. Mais question qui se pose, voilà, la consommation de produits psychédéliques pourrait-elle alors ramener ces jeunes gens vers le pacifisme et l'écologisme? Alors ça, c'est vraiment une question quand même cliché. Et le docteur David Dupuis, pareil, coupe court à tout espoir là-dessus, et il dit non, il démystifie cette idée reçue, parfois perçue comme de puissants vecteurs de transformation sociale et présente dans l'imaginaire révolutionnaire hippie. Ces substances ne vont pas voir la vie en rose, en fait, elles renforceraient simplement des facteurs culturels préexistants chez le consommateur. Des facteurs culturels qui, dans ces cas-là, puissent donc dans le nazisme. Oui, on peut effectivement vouloir consommer des substances psychotropes si l'on est dans une mentalité plutôt, je dirais, que je qualifierais au sens très large de progressiste. Mais si on l'est pas, on peut aussi avoir envie de consommer des substances psychotropes. Hein, c'est pas du tout. Enfin, je pense que les premiers usagers du LSD au début du 21e siècle, après la découverte d'Albert Hoffman, enfin en tout cas de ce qu'il en dit, hein, c'est que il y a pas mal d'utilisateurs du LSD au début, hein, qui n'étaient pas du tout des progressistes ou des gens hippies des hippies, quoi, pas du tout. Il y a même pas mal de gens de la haute société qui préconisaient l'utilisation du LSD pour l'élite, mais pas pour le peuple. Voilà. Donc, c'est comme ça. Voilà, il faut pas rêver. C'est pas parce qu'on consomme un produit comme ça qu'on devient hippie ou un progressiste.
Si les politiques légalisaient les produits qu'ils consomment, la cocaïne serait légalisée. Hein. Et là, ils en font aussi.
Oui, certes. Certes.
Certes. Allez. Eh ben, j'avais commencé à vous la mettre tout à l'heure parce qu'elle était partie. Hein. Donc, c'est Stuff Kovacs Just Ash. Thank you. Et ben voilà, donc c'était bien Staff Kovacs, un Just Ash. Donc de la petite musique de chambre du cirque.
Bien, bien. Allez, maintenant, pour terminer, un message un peu d'avertissement, de prévention, je sais pas. C'est l'ANSM, l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament, qui alerte sur une nouvelle classe de substances particulièrement dangereuses, hein, je cite, et donc qui s'inquiète de la circulation en France de nouveaux opioïdes de synthèse qui s'appellent les nitazènes et qui comportent un risque élevé d'overdose potentiellement mortelle. Merci. Même à faible dose. Voilà ce qu'on peut lire dans un communiqué d'aujourd'hui de l'ANSM. Donc ce sont des... font partie également des dérivés benzimidazolés, bien plus forts que la morphine. Donc c'est présenté sous une forme de poudre comprimée ou liquide, utilisée principalement pour soulager la douleur, hein, comme la morphine ou le fentanyl.
Sachant que c'est 500 fois plus fort.
Ouais. Que la morphine, que la morphine.
Que la morphine. Bah, le
fentanyl, c'est fort déjà aussi, quoi.
C'est déjà au moins une centaine de fois plus fort que la morphine.
Voilà, donc c'est très très fort et ça peut provoquer des overdoses.
Bah, ça provoque des overdoses, ça pousse, voilà, ouais. Et c'est pour ça qu'aux États-Unis, il y en a quand même 3000 quand même d'overdoses, ou je sais plus combien.
Oui, mais pas du nitazène.
Non, pas non, du nitazène, c'est du fentanyl ou d'autres, voilà, opioïdes.
Non, mais là je parle...
C'est phénoménal, quoi, le nombre d'overdoses dues aux médicaments... Opioïdes aux États-Unis.
Oui, en effet. C'est terrible. Voilà. Mais du coup, je reparle de ce nitazène. Donc voilà, c'est overdose qui peuvent survenir brutalement dans un délai très court après la prise et entraîner une mise en jeu du pronostic vital, avertit l'ANSM. Et oui, comme tu disais, effectivement, les opioïdes aux États-Unis, ça fait des ravages.
Ouais, non, mais parce que quand on dit. C'est... Il y a plus de morts dues aux opioïdes aux États-Unis par an
que les armes à feu.
Que les armes à feu, peut-être,
bah
et
si,
plus ouais. que ce qui est mort dans les deux tours du World Trade Center, quoi.
C'est je connaissais
phénoménal.
Pas ce parallèle, mais
d'accord. Bah oui, non, mais c'est phénoménal quand on y réfléchit, quoi. C'est
bah disons
comme
que déjà
il y a des choses qui choquent et d'autres, et là ils s'empoisonnent eux-mêmes, quoi.
Bon, bah disons que déjà quand on sait que le nombre de victimes par arme à feu aux États-Unis est très très important, mais voilà, ça fait plus de morts que ça, donc c'est très inquiétant. Donc je continue, un danger donc qui est avéré, hein, je vais pas revenir dessus. Deux cas de décès ont déjà été rapportés en France. Voilà. Plusieurs dizaines en lien avec des nitazènes en Angleterre et en Europe de l'Est depuis 2023. Donc l'ANSM qui recommande aux usagers et à leur entourage d'avoir à disposition un ou plusieurs kits de naloxone, l'antidote, en cas d'overdose. Donc le naloxone fonctionnerait aussi avec les nitazènes. Alors c'est à partir du demain les nitazènes vont être interdits. Ils vont être inscrits sur la liste des stupéfiants, leur production, la vente et l'usage donc interdits. L'ONU elle-même s'inquiète de l'émergence de ces nouvelles substances apparues récemment dans des pays à haut revenu et provoquant une augmentation des morts par overdose. Donc voilà, l'ONUDC s'est inquiété que les consommateurs d'héroïne se tournent vers des opioïdes de synthèse posant de graves risques pour la santé, bah, comme le fentanyl, on en a déjà parlé, les traitements de substitution aux opiacés, méthadone, subutex, bon ça c'est plus ancien, et ça ne provoque pas d'overdose, en tout cas pas à ma connaissance, ou ça peut, mais bon c'est quand même beaucoup plus rare, je l'ai rarement, voire jamais lu, mais voilà, désormais il y a les nitazènes. Donc expansion de ces opiacés très puissants qui proviendraient principalement, nous dit-on, de Chine, d'après une experte, Angela May, qui a évoqué un lien probable avec la situation en Afghanistan, où la production d'opium a chuté depuis le bannissement de la culture du pavot par les talibans et leur reprise du pouvoir il y a quelques années, 2-3 ans là.
Ils n'ont déjà pas de sous et ils enlèvent la seule source de revenus et de devises.
Voilà, mais bon, enfin, en tout cas, moi, ce que ça m'a fait penser, c'est que voilà, ben, on veut plus d'opium, certes. Et de quoi s'aperçoit-on ? Parce que c'est toujours pareil, hein, c'est que finalement, on arrive à faire des produits encore plus concentrés. Voilà. Et c'est un peu toujours comme ça, hein, la guerre à la drogue, ça produit toujours ces effets-là. On interdit une substance, et hop, eh ben, mécaniquement, le marché va chercher à faire une substance, ou en tout cas va trouver
plus
une solution
plus concentrée,
plus petite, plus facilement cachable, donc plus facile aussi pour passer des frontières. Voilà. C'est terrible. Allez.
La prohibition, circus. Ça sert à rien.
Alors attends, avant de mettre le générique, Cannabis Circus c'est terminé, et la semaine prochaine, une émission spéciale, puisque nous recevrons des invités qui tiennent une boutique à Lyon qui s'appelle Alice Délice. Voilà, et donc on va parler de plein de choses au niveau de leur boutique, l'histoire de leur magasin, qu'est-ce qu'ils commercialisent, où est-ce qu'ils peuvent se fournir, quels sont les produits, les dosages, etc. etc. On a plein de questions, et je pense que ça va vous intéresser aussi.
On va peut-être en apprendre sur le CBD, parce que...
Aussi.
On va vous dire que c'est pas là-dessus qu'on avait fait le plus de recherches jusqu'à maintenant.
Voilà, allez, Cannabis Circus c'est fini, maintenant c'est Chasseur de Son. Et à la semaine prochaine pour un nouveau Cannabis Circus, au revoir.